ses 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son party pour finir l'été en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville grouvera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, The Avne, Arnaud Robotini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20e édition pleine de fêtes et de découvertes.
Le OOMPH, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une 8e édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killah du Wu-Tang Clan, les Dead Obies, une soirée signée Ilsonic, La Fourmilière, Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au festival OOMPH rue Saint-Denis au cœur du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomph.ca.
Hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Pool Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
La vie est un grand jeu.
Hey, à quoi on joue?
La vie est un grand, grand jeu.
Viens t'asseoir avec nous.
Silence dans la salle, silence! Toc, toc, toc! Parce que c'est le moment de commencer notre émission du 21 août 2018 de La vie est un grand jeu avec votre animateur, nul autre que moi-même. Je l'ai veillé Bernard, en compagnie, bien sûr, de la merveilleuse, magnifique Anne-Sophie Touga.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Et fantastique. Vous? Oh, ça va assez bien. Est-ce que tu es prêt? Vous êtes prête? Excusez, on est à choc, donc on se vous voit ici. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes prête, Anne-Sophie, pour ce dernier épisode?
Ah, oh, mais oui, quelle tristesse.
Ben pourquoi c'est une tristesse? Parce que dernier épisode, ça veut pas dire que c'est la fin.
Ah, OK.
C'est le dernier épisode de l'été.
Ben très content d'être avec vous pour fêter un peu cette dernière édition de l'été. On va dire comme ça. C'est toujours une bonne raison de fêter.
Et d'ailleurs, on pense revenir avec une nouvelle formule, peut-être un peu moins souvent là, pour l'automne, mais on va revenir probablement en changeant des petits trucs, peut-être en ayant un peu plus de collaborateurs. D'ailleurs, vous, public en délire, qui nous regardez sur Facebook ou nous écoutez en podcast en 2022, vous pouvez essayer de me joindre pour faire partie de l'équipe de La vie est un grand jeu, parce que j'aimerais ça qu'on soit plusieurs des jurys. Ce serait fou, des amateurs de jeux, des gens qui aiment ça faire des voix, parce que j'ai plein de projets que j'ai jamais réussi à mettre en branle, puis ben, avec plus de collaborateurs, on ferait plus. OK.
C'est vrai,
donc, c'est le dernier épisode sous la formule qu'on connaît aujourd'hui. Ça va peut-être changer dans le futur. Hein? C'est ça l'objectif, donc c'est ce que j'essaie de dire. Mais pour aujourd'hui, penchons-nous sur, justement, les sujets du jour, c'est-à-dire l'interprétation. Hein? Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des règles d'interprétation ou des directives d'interprétation, parce que ce ne sont pas des règles vraiment. Et d'ailleurs, ben, c'est ça que c'était ça ma petite introduction, tu sais, l'interprétation de dernier épisode, c'est relatif, tu sais, parce que c'est le dernier épisode, mais peut-être dans le fond, vous, c'est le premier épisode que vous écoutez, parce que vous l'écoutez en podcast, puis vous avez décidé de commencer par le 21 août, pour une raison X. Ha! Donc c'est le premier épisode, mais le dernier pour nous. En tout cas, et on va aussi parler du jeu Munchkin, un petit jeu tout simple, fait de cartes toutes simples, et qui pourtant peut créer des situations un peu plus compliquées, à cause de l'interprétation qu'on peut faire des règles. Et Anne-Sophie va nous parler aujourd'hui de quoi?
Je me suis gâtée pour cette dernière chronique de l'été et je me suis fait plaisir. J'aime beaucoup rire. Est-ce que vous aimez ça, rire?
Ben moi oui, j'aime ça rire.
Je pense que oui, vous connaissez un peu. Eh bien, je suis allée chercher des faits juridiques insolites, cocasses. Oh. Je suis allée chercher des situations qui ont vraiment été menées au procès. Alors, juste pour détendre un petit peu l'atmosphère quand on parle de droit, ben il y a aussi des faits et des anecdotes tout à fait cocasses à partager.
Fait que vous faites de l'humour avec les poursuites insolites.
Je pense que oui. Ah. En fait, je pense que ça va vous faire rire.
Ouais, j'ai bien hâte d'entendre ça. En attendant, relaxons-nous, parce que quand les veines se rétrécissent, ça va pas bien. De parler du jeu du jour de l'émission de la semaine, du jour de l'émission de la semaine. Et j'ai nommé Munchkin de l'auteur Steve Jackson. Alors, le thème est assez simple dans le jeu Munchkin. Voyez-vous, il suffit simplement d'atteindre le niveau 10. C'est tout ce qu'on veut faire. Parce que, en fait, Munchkin, c'est un peu un jeu parodique des jeux de rôle comme Donjons et Dragons et autres jeux de rôle qui sont sortis depuis 30 ans, 40 ans environ. Le but, donc, est d'atteindre le niveau 10 en tuant des monstres ou d'autres manigances comme, par exemple, faire un don de chips désintéressé au MJ. Hein? Un maître de jeu, MJ. Donc, on donne des chips au MJ, puis ça nous donne un niveau. C'est intéressant, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est là qu'on voit toute la parodie de la chose. Et chaque personnage, comme disent les auteurs dans leur description, n'est finalement qu'un tas d'armures et d'objets magiques dotés de caractéristiques. Un magicien elfe de niveau 8, par exemple, portant des bottes de convocation d'hémorroïdes. Oui, oui, vous avez bien entendu. D'hémorroïdes, un bâton de napalm et des genouillères de séduction. Parce que tout le monde sait qu'un genou, c'est séduisant en petit pépère. Et donc, dans ce jeu, comme vous l'avez compris maintenant, un peu humoristique et parodique. Le jeu de base, par exemple, et les 22 000 autres extensions, là, honnêtement, je ne les ai pas comptées parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a au moins 10 officiels, là, Demented Dungeons, qui se passe un peu, je pense, dans l'univers de Cthulhu, ou en tout cas, il y en a un qui est Cthulhu, Jurassic Snark, hein, vous avez compris, c'est avec des dinosaures et des trucs comme ça, et bien sûr, celui aussi que je vous présente ici, Star Munchkin, qui se passe dans l'espace, et le jeu d'origine, qui est plus fantastique. Et non, ce n'est pas l'invasion des Martiens, mesdames et messieurs, mais bien des bruits pour représenter Star Munchkin qui se passe dans l'espace. Et donc, la mécanique est assez simple dans Munchkin. C'est deux paquets de cartes, un de trésor et l'autre de donjon ou station spatiale ou autre chose qui pourrait être avec le thème en cours. Et chaque tour, les joueurs, chaque tour de joueur consiste à explorer le donjon ou la station, là, vous l'avez compris, ou les bécosses, je sais pas, là, s'il y en a un qui se passe dans les toilettes. Et si on y rencontre un monstre, on doit le combattre, on est obligé de le combattre. Si c'est un objet, on l'acquiert. Une malédiction ou un piège, ben, on le subit. C'est simple comme ça. Donc ça, c'est la première partie d'un tour de joueur. Et je sais, c'est tout un choc que tout ça. Surtout dans l'espace. Bien sûr, tout de suite, il faut savoir que si on ne rencontre pas un monstre, on peut faire deux choses. Soit chercher la bagarre en jouant de sa main un monstre contre lequel on va se battre et qui va nous donner des niveaux. Parce que, je vous le rappelle, l'objectif du jeu, c'est simplement d'atteindre le niveau 10. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on va atteindre des niveaux en tuant des monstres. Les monstres vont aussi donner des récompenses, des fois sous forme de trésors, qui vont nous aider à tuer d'autres monstres ou à atteindre des niveaux comme ce trésor, qui est le don de Chips désintéressé au merveilleux maître de jeu. Ensuite, on pourrait aussi fouiller la pièce parce qu'on a peut-être un peu peur. Fait qu'on va fouiller la pièce et là, ça va nous permettre de piger une carte dans l'appel exploration, ce qui va nous donner accès à des objets ou des monstres qu'on va pouvoir plus tard jouer pour se battre contre eux. Hein, des monstres qui sont parfois plus faciles à se battre, comme des plantes d'ornement. Parce que tout le monde sait que c'est un monstre, une plante d'ornement. Mais c'est un monstre très faible. Ou des chèvres de Monsieur Spock, hein? Qui nous permettrait de tuer la fameuse chèvre de M. Spock. Tout le monde en a entendu parler dans l'espace. Et ça pourrait être aussi des malédictions qu'on va lancer aux autres joueurs. Parce que, bien sûr, ça se joue à plusieurs, ce jeu-là. Si c'est un combat qui nous est apparu en traversant la pièce, donc, et qu'on gagne le combat, on a droit à la récompense indiquée sur la carte du monstre, soit des niveaux, des trésors, et il y a un minimum de un niveau qu'on peut obtenir en battant un monstre. Par contre, si on perd le combat, on subit les conséquences d'avoir perdu le combat, et qui s'est souvent appelé l'incident fâcheux. Donc, c'est pas la perte, on n'a pas perdu, c'est juste un incident fâcheux qui nous arrive. Des fois, ça peut être de perdre un objet, ça peut être de mourir. Non, ça, c'est un incident très fâcheux. Les combats sont très simples. Hein? Les monstres ont une force de combat qu'il faut battre, donc il faut atteindre un niveau plus haut, avec notre niveau de personnage, additionner des différents bonus que donnent les différents objets qu'on peut utiliser. On réussit ou pas. Il n'y a pas de deuxième tour, on essaie une deuxième fois ou quelque chose comme ça. Par contre, on peut tenter de fuir parce que si on rencontre au premier niveau avec aucun objet les fameuses chèvres de M. Spock qui sont de niveau 6, de force de combat de niveau 6, ben il n'y a aucune chance qu'on réussisse. Alors on peut tenter la fuite. Il faut réussir un 5 ou plus sur un D6 qui vient avec le jeu. Et on peut aussi essayer de faire une alliance avec un autre joueur qui serait plus fort, hein, qui aurait déjà un objet ou des trucs comme ça. Et c'est là que commencent toutes les situations juteuses qu'on peut retrouver dans Munchkin. Parce que le jeu incite un peu à une interprétation créative des règles et qui, parfois, peut donner lieu à des situations inéquitables. Mais calmez-vous! C'est un peu là l'essence du jeu, voyez-vous. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Je vais le dire peut-être un peu plus tard, mais rappelons-nous que la devise du jeu, c'est tuer des monstres, fouiller des pièces, trahir vos amis. Donc, ça se passe pas si simplement. D'ailleurs, le livre de règles nous donne certaines règles d'interprétation de ces fameuses règles, des directives. Par exemple, au sujet d'échange d'objets, ils nous disent que le meilleur moment pour échanger, c'est hors de votre tour de jeu. Donc, alors qu'un autre joueur est occupé et qu'il ne peut pas voir ce que vous échangez, la négociation que vous faites avec le troisième joueur, qui lui n'est pas non plus dans son tour, ou alors que vous serez trop occupé pour voir ce que l'autre joueur actif fait, qu'il est en train de tricher, par exemple. Au sujet des querelles, on a un petit paragraphe qui nous dit comment régler les querelles, donc en plusieurs points, mais elles doivent être résolues par de bruyantes et interminables disputes. Oui, c'est ça qu'ils nous disent. Bon, bruyante et interminable dispute, c'est relatif selon les familles. Hein? Et le joueur à qui appartient le jeu, nous dit le livre de règles, a toujours le dernier mot. Bon, ça peut être juste un mot insignifiant, mais c'est quand même le dernier. Hein? Tout ça est dans l'interprétation. On souligne aussi quelques autres façons d'être créatif, comme d'utiliser une malédiction sur soi-même ou d'aider un autre joueur juste pour lui faire perdre un trésor. Hein? Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque on demande l'aide à un autre joueur pour combattre un monstre un peu trop fort pour une seule personne, ça donne place à la négociation. Et la négociation... c'est un terreau très fertile à l'interprétation. Hein, par exemple, le jeu établit quand même quelques règles d'interprétation, comme le fait qu'on peut seulement offrir en négociation les trésors de récompense du monstre qu'on va battre ensemble ou les objets qui sont déposés sur la table et pas ceux dans notre main. Donc, il faut déjà qu'on les a mis sur la table. Je rentre pas dans les règles de comment ça fonctionne, tout ça, parce que ça donne lieu à beaucoup de discussions parce que c'est pas clair tout le temps. Mais donc, ceux qui sont sur la table, ceux qu'on peut voir, on peut les échanger en échange de la participation d'un autre dans le combat. Mais il reste beaucoup de place à l'interprétation. Comme la reconnaissance éternelle, hein? On peut demander de l'aide à quelqu'un en disant je vais t'aider la prochaine fois. Ouais, vous l'avez pas vu, ceux qui m'écoutent, mais j'ai fait un clin d'œil. Je vais t'aider la prochaine fois. Et donc, ou la moitié des trésors au début du contrat ou à la fin du contrat, ça peut différer, hein, parce que peut-être qu'il va y avoir des malédictions qui vont s'ajouter ou un deuxième monstre, donc les trésors deviennent de plus en plus importants. Autre exemple qui peut être fait, hein, je peux offrir de prendre part au combat en échange d'un objet, hein, mais saboter le combat pour s'assurer que l'autre joueur ne gagne pas de niveau ou de trésor. Donc, d'un côté, on se joint au combat. J'ai dit que je prenais part au combat, mais donc j'ai droit à mon objet. Hein, mais c'est peut-être pas tout le monde qui le verrait comme ça. Hein, surtout l'autre personne qui a perdu le combat. Je me suis assuré qu'elle perde le combat pour pas qu'elle ait de niveau, pas qu'elle ait les trésors et tout ça. Et s'ensuit les querelles, bien entendu. On va peut-être trouver que c'est de la triche tout ça, hein, ou de la mauvaise foi, mais il reste que le slogan du jeu, on se rappelle, est « Tuez des monstres, pillez les trésors, trahissez vos amis ». On peut donc l'interpréter comme étant dans l'esprit du jeu. Tout dépend du point de vue et du contexte, et des enjeux de communication, comme le langage...
Je voudrais que l'on se comprenne, mais je ne parle pas ton langage. Tu ne veux pas perdre ton temps avec moi.
Langage de Moodoid sur leur album Cité Champagne. Et d'ailleurs, j'en profite pour présenter aussi la première chanson qu'on a entendue dans l'épisode que j'ai oublié de présenter, qui s'appelait « Là où les veines rétrécissent » de Renard Blanc sur leur album Nuit. Et c'est maintenant le temps, mine de rien, de se tourner vers la merveilleuse Anne-Sophie Touga.
Youpi!
Ça va bien, Anne-Sophie?
Oui, ça va très bien.
Donc, on va parler de poursuites insolites aujourd'hui.
Absolument. Bien ben oui, préparez-vous à entendre toutes sortes d'histoires rocambolesques, des histoires juridiques. Ah. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir toutes ces histoires-là. C'est une des chroniques que je pense que je préfère.
Ah oui?
Qui m'a fait le plus rire en amont.
Ah, c'est fantastique. C'est une terre fertile à l'interprétation,
ah,
les,
oui,
les trucs insolites.
Tout à fait.
Mais bien entendu, on pense à Anne-Sophie, donc on pense à...
Ah, merveilleux. Alors, on commence. On commence par Washington. On s'en va aux États-Unis, terre fertile pour les poursuites inusitées.
Ah.
On commence par un procès qui a bel et bien eu lieu en 2007. Mais l'histoire nous amène en 2005, alors que un juge administratif va chercher ses pantalons chez le pressing, okay, autrement dit chez le nettoyeur à sec, et se rend compte que son pantalon est abîmé. En fait, il reconnaît pas son pantalon, il accuse la compagnie de l'avoir perdu, parce qu'il dit que ce pantalon-là n'est pas le sien,
okay,
et il décide de réclamer 54 millions de dollars US au propriétaire de la teinturerie.
54 millions?
Absolument, parce qu'il y a eu beaucoup de stress associé à la perte de ce pantalon jaune.
Ben oui.
Alors, je vous explique. Le plaignant, M. Roy Pearson, il travaille au district de Columbia. Il a subi la perte de son pantalon pendant 2 ans. Alors, voilà, nous sommes rendus au procès en 2007. Alors, 2 ans sans son pantalon, c'était trop pour
Mais là,
M.
il se promenait en bobette tout le temps?
Non, mais, ben non. Hein, c'est un juge administratif, je vous dirais. Il a décidé donc de poursuivre, mais il a perdu sa cause.
J'espère.
Il n'a pas été capable de prouver que le pantalon gris qui lui a été remis n'était pas le sien.
Ah,
alors,
mon Dieu.
Alors, ça fait juste commencer, Jude.
Hey.
Il a ensuite changé de stratégie.
Ah,
hein?
Ah oui, parce que... Okay.
Ah oui, il est persistant. Il a décidé d'attaquer les gérants du pressing sur les annonces publicitaires qui figurent dans leur magasin. Dans leur magasin, c'était écrit « Satisfaction garantie ».
Ben oui.
Et là, comme lui considérait pas que c'était vrai, ben, il a calculé le montant, en fait, à 1 500 $ de pénalité par jour d'ouverture, puisqu'ils avaient une publicité mensongère. Alors... Il réclamait un très, très haut montant également. Et, bien, en fait, finalement, c'est ça, il a perdu, encore une fois. En fait, je vais vous expliquer. La juge Judith Beardnoff a débouté Pearson. Ouais. Elle a noté que ses attendus et que le plaignant, dans ses attendus, pardon, à la juge, que le plaignant n'a pas apporté la preuve. Ça, je l'ai dit. Il a finalement fait appel une autre fois, mais ses démarches n'ont pas abouti puisque le juge Bartnoff de la Cour supérieure a rendu le jugement suivant. La poursuite de Pearson est rejetée et il est condamné à payer les frais de cour d'environ 1 000 $. Reste à venir une audition sur la demande des avocats du teinturier pour que Pearson soit condamné à leur rembourser les honoraires de plusieurs dizaines de milliers de dollars. En passant, Pearson avait refusé en cours de route dans les procédures judiciaires une offre de règlement à l'amiable de 12 000 $.
Ben voyons.
Il a refusé. Alors, il y a un article du Washington Post en 2007 qui énonçait que Pearson est devenu un symbole d'un système juridique ayant perdu tout contrôle.
Ben oui, puis non, parce qu'ils l'ont débouté en même temps. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mises dans tout ça, finalement.
Absolument, il a perdu, en fait.
Au moins, il n'a pas gagné, ça. Carrément tout perdu.
Non, exactement. Alors, je vous parle d'une autre... d'un autre procès, cette fois en Chine.
Ben oui.
Et je vous parle d'un Chinois qui, à la naissance de son fils, s'est plaint.
Je pense que j'ai entendu parler de ça.
Oui,
je
pense que c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Il a trouvé son bébé très laid.
Ben oui.
Il a accusé sa femme de l'avoir trompé. Et oui. Il y a eu un test d'ADN, donc, qui a prouvé qu'il était bel et bien le père de l'enfant jugé laid. Et il a découvert par la bande que sa femme avait subi des chirurgies esthétiques et il l'a poursuivi sur la base du mensonge. Il a gagné son procès. Il a été dédommagé pour environ 80 000 livres, ce qui équivaut à 134 000 $ canadiens environ. Donc, c'est une histoire où le plaignant a réussi à plaider sa cause.
Oui, puis il a même nullifié le mariage. Là,
exactement, il a annulé le mariage.
En fait, c'est pas nullifier, ce qui est très difficile, là, c'est-à-dire qu'il y a eu vice de consentement dans ce cas-là. C'était très impressionnant.
Il connaissait pas la réelle beauté de sa femme,
exactement.
Donc il s'est estimé trompé.
Ouais.
Maintenant, une histoire aux États-Unis où il y a un proxénète qui a attaqué le client d'une prostituée parce que celui-ci n'a pas voulu payer le service.
Okay.
Et il lui a asséné des coups avec son soulier Nike.
Ben oui.
Il l'a gravement blessé. Le client a eu besoin de plusieurs points de suture ainsi que de chirurgie esthétique. Mais Jordan, ça c'est le nom du proxénète, il a été condamné à 100 ans de prison. Évidemment, 100 ans, oui,
okay.
De prison. Le client l'a poursuivi. Mais Jordan, malgré cette sentence, a continué de faire une poursuite contre la personne qu'il avait lui-même violentée pour 60 millions de dollars. En fait, non, je rectifie. Il a poursuivi Nike, la compagnie Nike, pour 60 millions de dollars parce que la compagnie de chaussures aurait, selon lui, pas bien mentionné à ses clients à quel point ses chaussures pouvaient être des armes dangereuses.
Ah, ça, c'est bon, ça!
Et voilà.
Oh, mon Dieu, c'est excellent.
Donc, ne vous surprenez pas si la prochaine fois que vous achetez vos souliers, il y a une petite mention. En fait, je devrais dire que le procès n'a pas abouti.
Ouais,
vous pouvez le deviner, là, mais je pense pas qu'il y a cette notion sur les chaussures Nike, mais tout d'un coup, vous regarderez le tout.
Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bon.
Réfléchissez avant d'attaquer quelqu'un avec un soulier.
J'avais entendu parler tout ça d'une autre histoire, un homme qui voulait maigrir puis qui avait arrêté son abonnement au câble. Et que le câble avait arrêté de lui charger, mais avait pas coupé le service dans le fil.
Mm-hmm.
Puis lui, il avait jamais débranché sa télévision. Fait qu'il a poursuivi la compagnie de câble parce qu'il a continué d'écouter la télévision en mangeant des chips sur son sofa.
Oui, il n'a pas maigri.
Il n'a pas maigri à cause de la télévision, à cause de la compagnie de câble. C'est terrible.
C'est sensible hein, comme sujet. Bon, voilà. Maintenant, j'en ai quelques autres sur le site topito.com. Vous pouvez trouver une sélection des meilleures histoires. Drôlissime, je vous parle d'une femme qui s'est présentée à un avocat qui lui a demandé de poursuivre McDonald's parce que son fils aurait eu de mauvais traitements.
On
a découvert avec la petite enquête de l'avocat qu'en fait son fils essayait de braquer un McDonald's. On appelle ça un revirement de situation.
Donc il a été battu par les gens qui travaillaient là, fait que la dame a voulu...
Je pense qu'elle a essayé de tourner l'histoire à son avantage.
Ou le fils
prévenir plutôt que guérir.
Dit. Ouais, c'est ça.
Décider d'aller de l'avant avec les poursuites avant que son fils
ça fasse poursuivre.
Exactement. Il y a un autre accusé qui a qui, je disais un accusé, mais quelqu'un accusé d'avoir piqué un t-shirt jaune de marque Fubu. Okay. Et qui sera en cours pour son procès vêtu d'un t-shirt jaune de marque Fubu. Le type a été condamné à des travaux d'intérêt général. Une autre histoire, un voleur de voiture.
Oui.
Hein? Il est sans casier. C'est pas, bon, il n'a pas fait un grave délit. Il a volé une voiture qui était un peu déjà éméchée. Il y a eu une, bon, la peine maximale dont il peut écoper serait du domaine du sursis.
OK.
OK, pour le délit qu'il a commis.
OK.
Donc, bon. Et, mais le type, il se prend pour un mafieux.
Ah.
Il décide d'aller intimider des témoins qui s'apprêtaient à aller témoigner à son procès.
OK.
Alors, il a écopé de 20 ans de prison pour avoir une tentative de corruption de témoins.
Ben oui, ben oui.
J'ajouterais même bien joué. Enfin, est-ce qu'on a le temps pour une dernière histoire?
Une dernière, on en fait une dernière, une parce que dernière. C'est trop le fun.
Mais ils sont courtes, hein, ces
oui.
histoires-là.
Oui, je vais me presser, moi, après, c'est tout.
OK. Alors, il y a un homme qui est accusé d'avoir conduit en état d'ivresse et sans permis de véhicule.
OK, d'accord? Oui.
Jusqu'ici. Le type assure qu'il n'a pas bu, qu'il n'a pas conduit de véhicule et que, de toute façon, il a bel et bien son permis.
OK.
Un permis valide. Après vérification, l'avocat se rend compte qu'il était totalement bourré, que son permis a expiré depuis 3 ans et que des témoins l'ont vu à bord du véhicule.
Okay.
Alors l'homme change sa version.
Ah oui.
OK. Et explique que s'il a bu, c'est contre son gré.
Ah ben oui.
Oui. Parce que son fils qui aurait versé du whisky dans son thé.
OK. Il fait ça souvent, son fils.
Oui. Et l'affaire est devant le tribunal et l'homme est évidemment condamné. Puis plus tard, l'homme en question attaque son avocat pour l'avoir mal défendu.
Ah oui, oui, oui.
Son argument est simple et factuel.
OK.
Il a perdu son procès.
Oui.
Voilà, les encore. Arguments soumis à la
Écoute,
cour.
C'est voilà.
Là encore, l'homme perd. Ai-je besoin de le préciser? Voilà.
C'est bien. Hey, merci beaucoup.
Ça
on
fait
écoute
plaisir.
Rap Quakeb, mettant en vedette John Wayne. Pour s'esclaffer un peu du groupe 4 Boot sur leur EP Le Roi Catherine.
Non, je suis n'importe où. Hey,
Dude, j'ai mon mic, mon 40, puis mon blunt. Je take the money et je run. Je bump, bienvenue dans mon bloc, mais faut que je get out de là. Puis que je bring out tout mon peeps. Wait a minute, just au cut. Dans le fumé, juste au cut. Ça le tourne, et comme la tape de Killer Cut. God damn, hurry up. Rap cab, money god. So we do it, payer c'est doux. C'est pas nouveau, mais c'est tout. So say, ils sont sauvés, mais c'est cool. Ils nous ont laissé le fou sauter.
Mais t'aurais pu me dire, expliquer. Après, traverse même pas le pont Champlain.
Bon, si on veut parler un peu de droit, je dois couper court à 4 Boot. Mais si vous avez aimé ça, bien sûr, je suis certain que vous êtes capable de le retrouver quelque part. Donc, les règles d'interprétation en matière juridique. L'interprétation juridique, nous dit un auteur dont le nom m'échappe à l'instant, est inévitable. Elle l'est en raison de l'imperfection de la communication entre législateur, juge et juriste. Et j'ajouterais même entre tout ça et la population, hein? ne l'oublions pas. Du langage lui-même, hein? L'interprétation, ça vient du langage lui-même, qui peut être imprécis ou ambigu, mais aussi de l'utilisation qui est faite de ce langage. Hein? La méthode, donc la grammaire, le vocabulaire, les mots qu'on utilise et tout ça, mais le placement aussi, si on met une phrase avant une autre, ça peut donner un sens à la deuxième phrase et ainsi de suite. Du reste, on nous dit, la nécessité d'interpréter, et ça c'est super important, ne s'impose pas seulement dans le domaine juridique, elle participe de la vie courante. Hein? On est tout le temps en train d'interpréter notre environnement et constitue une activité aussi permanente qu'incontournable. Rien de moins, mesdames et messieurs. Quel choc! Incontournable! Notons que le mot « interprétation » lui-même est ambigu. Hey, hein? On est-tu dans la méta? L'interprétation, c'est un mot qui porte à interprétation. Puisqu'il désigne à la fois une opération, Hein? J'interprète quelque chose, une méthode, la façon d'interpréter les choses et, bien sûr, un résultat. J'en ai fait une bonne ou une mauvaise interprétation. Hein? Qui l'eût cru? Autrement dit, on a beau écrire des règles, il reste que ce qu'elles veulent dire, c'est pas toujours clair. Et pour ça, il y a des règles d'interprétation ou des directives d'interprétation, pour être plus clair, puisque ce ne sont pas des règles à proprement parler. Et elles ne seront pas aussi simples que « faites ceci, faites cela ». Dans un même texte, on peut être face à différents types d'interprétations. J'en ai parlé beaucoup des règles d'interprétation par la bande durant les derniers épisodes, puisque j'ai parlé de la Constitution, j'ai parlé des compétences. J'ai parlé du fait que au fédéral, la compétence est large, donc l'article 90 des compétences fédérales va être interprété de façon stricte et même parfois restrictive. Donc, ça veut dire ça qu'on n'en met pas plus que ce qui est écrit sur le papier, puis même des fois, on va réduire un peu ce qu'on pourrait pensée qui est inclus sur le papier. Et à l'inverse, au provincial, les compétences sont très restreintes, il n'y en a pas beaucoup, sont très précises, mais on va en faire une interprétation libérale, donc large, pour en inclure le plus possible à l'intérieur de ces compétences-là. Ce qui veut donc dire que avec la légalisation du cannabis qui arrive tout bientôt, on va sûrement avoir beaucoup de débats sur ce sujet-là, puisque notamment entre le Québec qui veut interdire la culture alors que la loi canadienne le permet. Je rentre dans le détail ici. On se rappelle que le criminel est de compétence fédérale, mais que le privé, donc ce qu'on fait à la maison, est de compétence provinciale. Donc les juristes fédéraux vont peut-être essayer de convaincre la Cour que le Canada peut légiférer dans le privé, puisque la culture à la maison, c'est de matière privée, parce qu'il s'agit d'une question criminelle, et donc d'interpréter la compétence en matière criminelle de façon libérale. Hein? Ne pas mélanger le Parti libéral qui est à la source de cette loi-là, bien entendu. Hein? Le Parti libéral peut être conservateur. Oh non, qu'est-ce qui vient de se passer? Pouf! Pour revenir à cette interprétation libérale de la compétence fédérale en matière criminelle, c'est-à-dire assez large pour que le droit criminel accorde une permission. Parce que, on se souviendra peut-être, j'en ai pas vraiment parlé de ça, mais on prendra note peut-être que le droit criminel a plutôt comme fonction de restreindre la liberté des individus dans les situations que la société juge néfastes au bien-être commun. Hein? On restreint les choses. Donc, on parlerait aussi d'une interprétation libérale de la compétence en criminel, puisqu'on donnerait à une disposition criminelle le pouvoir de s'imposer dans le domaine privé, compétence provinciale, de façon à accorder un droit au lieu de limiter une liberté. Je ne sais pas si vous trouvez ça clair, mais c'est pas nécessairement clair. Là. C'est normal de ne pas trouver ça clair. Les juristes se cassent la tête, je suis certain en ce moment. Ils mettent des deux côtés leurs arguments et ils vont mettre de l'avant les façons d'interpréter tout ça. Parce que les règles d'interprétation, c'est pas des règles de droit normatif. Hein. Il n'y a pas une façon précise d'interpréter les choses. Des fois, dans les textes, il va y avoir quelques mentions de comment les interpréter. C'est pas comme les règles de droit qui, elles, forment les lois, puisque les directives d'interprétation, elles ont un caractère supplétif et un poids variable. Un caractère supplétif, là, on va penser à Munchkin. Hein? Il y a les règles du jeu, ouvrir une porte, combattre un monstre, demander de l'aide, etc. Et la façon d'utiliser ces règles, donc ça peut changer le poids, ces règles dans les négociations et l'incertitude, par exemple. Hein? Si on n'est pas sûr, on va peut-être appliquer d'autres règles qui n'étaient pas vraiment claires, puis à certains moments, on va appliquer des règles, mais à d'autres moments, on ne va pas les appliquer. Et ça va d'ailleurs varier selon le groupe d'amis avec lequel on va jouer. Hein? Certains seront plus stricts sur les règles, d'autres préféreront la négociation, c'est un peu supplétif, hein, comment on gère la négociation, jusqu'à quel point on se permet de faire tout plein de choses. Donc, les directives d'interprétation, comme nous dit l'auteur Charlotte Lemieux, supplient le silence du législateur de la même façon que les dispositions concernant l'interprétation des contrats supplient le silence des parties en matière contractuelle. OK. C'est-à-dire que elles ne s'appliquent qu'à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des sujets de droit. Donc, par exemple, si on faisait une loi qui disait « on va interpréter maintenant toutes les compétences de la Constitution de façon libérale, toutes les compétences ». Bon, ça se peut pas parce que c'est la Constitution, puis une loi, ça peut pas influencer la Constitution, mais c'est pas grave. T'sais, mettons qu'on faisait ça, mais là, on le dit, c'est clair. Mais sinon, ben on fait ce qui a été fait jusqu'à maintenant, la norme, puis tout ça. C'est des règles qui sont supplétives et tout ça. On peut penser aux règles de contrat. Hein? Et si on n'écrit pas les choses, il y a certaines règles qui vont venir s'appliquer au contrat, même si on les a pas écrites. Dans le cas contraire, donc, elles ont parfois une force obligatoire pareille, hein, et ceux qui n'y sont pas soustraits y seront soumis. Donc, si le caractère supplétif et le caractère impératif d'une loi sont en nette opposition, il n'est cependant pas impossible qu'une loi ou une disposition supplétive puisse devenir obligatoire. OK, c'est compliqué pour rien tout ça. On n'est pas obligé de se pencher là-dessus. Ce qu'il faut penser, c'est que c'est supplétif. Hein. Il y a certaines règles qui viennent appuyer ce qui n'est pas dit. Je vais tout de suite passer à... Notons qu'il y a certaines dispositions. On va prendre par exemple le mariage, la fameuse union civile. Si vous faites un contrat d'union, vous n'avez pas nécessairement besoin de tout inclure dedans puisque le code civil vient suppléer à vos silences. Mais de la même manière, si vous incluez tout dans ce contrat-là et vous dites comment vous allez séparer les biens à la dissolution de l'union, ben le code civil, il va pas venir s'imposer en plus. Sauf pour certaines choses qui visent à protéger, par exemple, les enfants qui sont plus impératives. Par exemple, la maison familiale. On peut pas juste vendre la maison familiale puis pas donner l'argent à personne. Il faut que les enfants soient toujours protégés. Oh, boy, boy! On n'est pas tout seul dans la vie, puis ça peut être compliqué des fois, faire des choses.
And just when we discover that we need each other, here our lives keep pulling us away. Now we're both so unstable at the kitchen table with these peanut bagels in a foreign state. Because the point is that I see it's not just me.
C'était un court extrait de It's Not Just Me du groupe Let's Eat Grandma. Sur leur album I'm All Ears. Je voulais faire un petit lien quand même et rapidement faire ma critique. Il me reste quelques minutes. Donc, le petit lien entre le jeu et les règles d'interprétation, c'est-à-dire que c'est le contexte hein, qui va donner beaucoup les règles d'interprétation, le contexte légal, historique, les mentions dans les différents textes qui sont concernés et ainsi de suite. L'impact pour avoir, parce que les juges ont certaines libertés de choisir comment ils vont interpréter ça pareil. Là. C'est jamais coulé dans le béton, à moins que ce soit spécifié. Et le jeu, ben c'est ça. Certaines règles sont plus strictes selon que nos groupes de joueurs, le contexte. Si c'est la belle famille, on va peut-être être moins dans trahir la belle-mère. Hein, t'sais, faudrait pas qu'elle nous en veuille trop. Et maintenant, une petite critique rapide de notre jeu Munchkin. Ce sera pas très long puisque c'est un jeu tellement simple. Comme d'habitude, un avis sur les composantes. Ben, des matériaux, des cartes. Hein, c'est juste des cartes et un dé qui vient avec le jeu. Les cartes sont assez simples, de bonne qualité sans être trop de bonne qualité parce que on s'assure d'avoir un bas prix. C'est un jeu qui se vend à la masse beaucoup. On en fait beaucoup. Ça coûte pas très cher. La mécanique est assez simple, mais c'est pas clair. Donc, ça peut être un peu dur des fois d'entrer, d'expliquer à des non-joueurs qui embarquent dans ce rythme-là. Ça marche avec des groupes qui interagissent, qui sont un peu tricheurs, un peu qui ont le goût de jouer à se jouer des mauvais coups, qui embarquent dans le concept du chaos, parce que c'est un chaos organisé, Munchkin, finalement. Ça peut causer de la frustration, cependant. Hein? On va se le dire. Excusez, mauvais bouton. C'est un jeu qui se place dans l'univers comme étant assez simple, qui n'est pas indiqué pour tous les types de joueurs, je dirais. Hein? Avec un peu d'alcool dans le nez, c'est peut-être plus facile de jouer au jeu des fois, ou d'autres choses, avec le cannabis qui se légalise. Ça prend un certain niveau d'humour et de dérision pour apprécier. Faut pas vouloir gagner, faut vouloir jouer au jeu. Lire les cartes qui sont un peu ridicules. Avoir un mutant, par exemple, qui se promène avec un gourdin de misogynie fracassante et un banano-ventilo-laser. Vous aurez compris, c'est ça le but plus que de gagner. Donc, c'est un jeu assez plaisant qui s'explique assez rapidement. Il se joue jusqu'à 6 joueurs, mais qui n'est pas bon à 2 personnes parce que c'est le fun d'avoir des alliances dans ce jeu-là. Puis mélanger les univers, c'est vraiment gagnant de mélanger l'espace avec le fantastique, avec Cthulhu, puis avoir des trucs comme ça. Ben,